Actes au chapitre 4, nous allons faire la lecture des versets 32 jusqu'au chapitre 5, le verset 16. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et ils le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à ce prix, à un tel prix, que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés dans la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux et qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Quel texte ! Je ne pense pas que ça fasse partie de nos textes préférés de la Bible. Ça fait frémir, non ? On est habitué à ce genre d'histoire dans l'Ancien Testament, mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes à quelques semaines de la Pentecôte. Nous sommes pendant ce premier grand réveil de l'Église. Ce ne sont pas d'horribles païens qui sont frappés. Mais ce sont des chrétiens nés de nouveau. En y réfléchissant, j'ai réalisé que la mort des premiers chrétiens de la toute nouvelle Église est provoquée par Dieu et non pas par la persécution. Vous imaginez ça? Les premiers chrétiens ont été frappés premièrement par Dieu et non pas par les ennemis. Ça m'a fait penser à ce verset de 1 Pierre au chapitre 4 où l'apôtre, le même, qui est à l'œuvre ici, rapporte « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» L'évangile, comme le jugement commence par la maison de Dieu. Et ici, il y a deux parties. Une partie au chapitre 4 où on aimerait tous faire partie de cette église du premier siècle. Là où l'amour est tel, il y a un seul cœur, une unité parfaite. Et puis, il n'y a pas d'indigents. Il y a une grande grâce qui repose sur cette église. Mais je ne suis pas sûr qu'on aimerait faire partie de l'Église du chapitre 5, où là, il y a un jugement de Dieu lui-même qui vient frapper les premiers chrétiens de mort. Et là, il y a une grande crainte qui s'empare de toute l'Assemblée. Mais c'est la même Église. C'est la même Église. Et si nous voulons faire partie de l'une, nous devons aussi accepter l'autre. Et elle est merveilleuse parce qu'il y a cette grande grâce qui repose sur eux tous et puis cette grande crainte qui s'empare de toute cette assemblée. J'aimerais tirer quelques leçons pour nos vies. La première leçon, tout d'abord, faisons attention à une idée fausse. Je voudrais essayer de vous raconter la même histoire, mais un peu actualisée pour nous. Ça se passe dans l'EBJM, Église Baptiste Jérusalem Minime. Nous sommes pendant une assemblée générale à discuter des difficultés matérielles que rencontrent quelques-uns d'entre nous. Comment pourvoir aux besoins des uns et des autres ? L'un d'entre nous se lève, Barnabas, et il dit, écoutez mes frères, le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Il m'a sauvé et il pourvoit d'une manière merveilleuse à tous mes besoins. Je viens de recevoir ma prime de fin d'année et j'aimerais la donner à l'Église en faveur des plus nécessiteux d'entre nous. Là-dessus, il se lève, sort son chéquier et fait un chèque de 1000 euros. Juste après, un autre frère se lève et il dit, il s'agit d'Ananias, « Mes frères, avec ma femme, Saphira, nous venons de décider de faire la même chose. Dans quelques jours, je toucherai ma prime de fin d'année. » Et je veux que vous sachiez que je la donnerai dans sa totalité à l'Église en faveur de mes frères qui sont dans le besoin. Et la semaine d'après, Ananias touche sa prime, 2000 euros de prime de fin d'année. Il dit à sa femme, « Waouh, je ne pensais pas toucher une telle prime. C'est la crise. » Est-ce que je dois tout donner ? On pourrait donner peut-être 1000 ou 1200. 1200 euros. C'est déjà bien. C'est plus que Barnabas. Ok, chérie, on fait comme ça. À la prochaine réunion, devant le conseil de l'église, le frère dit, « Ça y est, j'ai touché ma prime. » Et comme convenu, je la donne pour les plus démunis. Le pasteur Pierre dit, tu as touché 1200 euros de prime. Il dit, oui, c'est ça. C'est tout ce que j'ai reçu et je le donne à l'église, comme prévu. Et là, d'une manière miraculeuse, le Saint-Esprit révèle au pasteur qu'Ananias ment. Qu'en réalité, il conserve une partie de la prime qu'il a reçue. Et Ananias tombe raide. Sa femme vient juste après. Vous n'avez pas vu mon mari ? Si ! Il vient de nous apporter votre don en faveur des plus démunis de l'Église, selon la promesse que vous avez faite à Dieu et à l'Église, de donner toute votre prime. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. On donne toute la prime. Les 1200 euros, on les donne. Et la femme expire, tombe et meurt. Mais qu'est-ce que c'est que ce pasteur ? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui frappe de mort ceux qui donnent pour les pauvres ? D'autres ont également touché une prime, et ils ne l'ont pas donnée, et pourtant ils sont bien vivants, eux. Ils sont morts parce qu'ils ont simplement conservé un peu du produit de leur prime. Est-ce que c'est pas un peu sévère comme jugement ? Il me semble d'ailleurs que le pasteur en question, le pasteur Pierre, il me semble que lui, il a renié par trois fois de connaître le Seigneur Jésus-Christ et qu'il l'a fait avec serment. Et pourtant, il est vivant, lui. Et c'est lui qui donne encore la sentence. Quel est leur grand crime ? Est-ce de n'avoir pas tout donné ce qu'ils auraient pu donner ? On devrait tous mourir. Réglons cette question. Le péché d'Ananias et de Saphira n'est pas un problème de finance, mais d'hypocrisie. Ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas tout donné, mais parce qu'ils ont fait croire qu'ils donnaient tout à Dieu. C'est ce que Pierre lui dit au verset 4. Tu n'étais pas obligé de le vendre. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas tout entier à ta disposition ? Tu pouvais donner ce que tu voulais, mais tu ne pouvais pas mentir à Dieu et à nous. Le fait que Pierre confronte Ananias en disant au verset 3 « Comment est-ce possible que tu mentes au Saint-Esprit ?» Et puis un peu plus loin au verset 4 « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu !» Ça signifie que Ananias avait certainement promis au Seigneur qu'il donnerait tout l'argent. Et comme il n'a pas tenu parole, il avait menti au Saint-Esprit qui demeurait en lui et qui demeurait dans l'Église. Si nous sommes choqués par ce que Dieu fait ici, si nous sommes choqués, nous sommes probablement tombés dans ce péché. Nous sommes tombés dans le péché parce que nous avons omis d'apprécier le caractère sacré de Dieu à sa juste valeur. L'idée fausse dont il faut nous garder, l'idée fausse d'Ananias et Saphira, c'est que Dieu ne se préoccupe pas de cette affaire. Il n'est pas attentif à mon attitude de cœur. Il ferme les yeux sur une situation de péché et même il s'amuse de mon hypocrisie. Ça signifie que mon Dieu ne verrait pas au fond de mon cœur. Dieu ne serait pas parfaitement juste ou parfaitement saint. Vous savez, Ananias, ça signifie l'Éternel est plein de grâce. Anna, c'est grâce. Ananias, l'Éternel est plein de grâce. Quel beau nom, n'est-ce pas ? On ne trouve pas dans les églises d'ailleurs celui-ci, pourtant. L'Éternel est plein de grâce. Je crois que C'est aussi comme cela qu'on pourrait se nommer, nous tous. L'Éternel est plein de grâce. C'est-à-dire qu'on sait que l'Éternel est plein de grâce. Et je crois qu'il nous arrive de pervertir cette grâce en faisant de la grâce de Dieu comme un blanc-seing pour pécher, une sorte d'autorisation tacite de péché, reconductible. Parce que Dieu est gracieux, parce que Dieu est plein de grâce, je peux m'abandonner au péché. Mais le Seigneur ne nous sauve pas pour que nous continuions à pécher. Si le péché était détestable avant de connaître Christ, il ne l'est pas moins maintenant que nous le connaissons, que nous connaissons son amour, que nous connaissons le prix inégalable qu'il a payé pour nous pardonner, le sacrifice de Jésus-Christ lui-même. Si le péché autrefois méritait la mort, les choses ont-elles changé? Le péché mériterait-il un meilleur traitement? Non, le péché mérite toujours la mort. Dieu voit tout. Il s'intéresse à tous les recoins de notre vie. Il ne transige jamais avec le péché. Et sa grâce, elle nous enseigne, comme le dit Tite au chapitre 2, elle nous enseigne, au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Si la grâce ne produit pas cela dans notre cœur, probablement c'est que nous avons méconnu la grâce, mal connu ce que c'est que la grâce, elle, de Dieu. Oui, Dieu est plein de grâce. Il est plein de grâce, mais pas simplement pour Ananias et Saphira. Ils ont reçu sa grâce, le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ. Et bien qu'ils aient été frappés de mort, ils sont dans sa présence. Mais Dieu est aussi un Dieu plein de grâce envers l'Église et envers toutes les foules qui ont besoin de connaître son pardon. Et c'est pour cela, précisément à cause de sa grâce, que Dieu a frappé Ananias et Saphira. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est de nous souvenons-nous d'une réalité terrible. Quelqu'un a écrit « Le plus grand miracle rapporté dans toutes les Écritures est certainement celui que nous trouvons là, au chapitre 4 et au verset 32. » Pensez à tous les miracles possibles et regardez celui-ci. La multitude, verset 32, de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Magnifique, extraordinaire. Rien d'aussi grand n'a jamais été fait. Rassembler une multitude de personnes différentes, d'âges différents, de pays, de nationalités différentes, les amener dans un même lieu et en faire un seul cœur, une seule âme, de sorte que les souffrances de l'un affectent l'autre, que la joie de l'un remplit de joie le cœur de l'autre. Un seul cœur. Satan ne supporte pas quand l'amour fraternel se manifeste de la sorte au point qu'on puisse dire ils ne sont qu'un cœur et qu'une âme. C'était une période terrible pour Satan. Il venait d'être vécu par la mort et la résurrection, vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Des âmes viennent par centaines rencontrer le Sauveur et trouver le pardon pour leurs péchés. Le Saint-Esprit remplit le cœur des croyants, et il remplit l'Église, et il manifeste entre chrétiens son amour, de sorte que il y a une démonstration devant toute la ville de Jérusalem, tous les habitants de Jérusalem, que Dieu est là, dans ce lieu, dans cette église, au milieu de ces hommes, de ces femmes. Ça les bouleverse. Et ils viennent encore plus nombreux. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de jour en jour. En quelques semaines, ils sont passés de 120 disciples à plusieurs milliers. J'ai lu un commentaire qui disait que probablement il y avait à ce moment-là à peu près 20 000 âmes à Jérusalem. Le diable ne supporte pas de voir les âmes lui échapper et glorifier Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alors il cherche un moyen d'empêcher le progrès de l'Évangile. Sa méthode est ancestrale. Corrompre l'Église par le péché. Le diable, il est le spécialiste pour contrefaire l'œuvre de Dieu. Il le fait en détournant la gloire sur lui-même ou sur les hommes du moment qu'elles ne reviennent pas à Dieu. Et Ananias et Saphira, séduits par le diable, offrent une imitation de l'amour fraternel. Ils offrent une imitation de la générosité. Ça ressemble à de l'amour fraternel, et pourtant, c'est de l'égoïsme. Ce qu'ils cherchent, c'est leur propre gloire. Et ils le cherchent au moindre coût, pourvu que ça leur coûte le moins possible. Ah ben oui, parce que c'est eux qui payent. Ils veulent se faire un nom dans l'Église. Ce serait le couple le plus généreux de l'Église. Ça sonne bien. Christ et son sacrifice sont mis de côté. Ils pensent finalement pouvoir être quelqu'un par leur propre force, par leur propre argent. Mes frères, mes sœurs, pensez-vous que le diable est vieilli? Pensez-vous qu'il voit moins bien les choses, qu'il entende moins bien les choses qui se font, qui se passent? Croyez-vous qu'il nous laissera en paix tout en regardant les âmes se convertir à Christ et glorifier son nom en s'aimant ardemment les uns les autres, en se faisant baptiser en son nom, en proclamant en dehors et en dedans la victoire du Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous cela? Non. Il cherchera, comme il a toujours fait, à corrompre nos cœurs, en remplissant nos cœurs, si possible, du péché, et pourquoi pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le vice qui consiste à feindre des sentiments, des vertus qu'on n'a pas. En fait, c'est cesser de vivre sous le regard de Dieu pour en fait ne vouloir être vu que par les hommes et jugé que par les hommes. Les hommes qui ne voient pas au fond de nos cœurs, mais qui regardent simplement à ce qui frappe les yeux. Dès ce moment, l'Esprit Saint est attristé. Nous le savons parce que nos cœurs sont immédiatement troublés. Quand nous péchons, nous le savons, le Saint-Esprit est attristé, nos cœurs sont troublés. On perd immédiatement cette joie qui vient du ciel. Vous savez, cette joie qui ne dépend pas des circonstances ou de l'état de nos finances. Le Saint-Esprit, il est souvent présenté comme le feu par lequel la lumière jaillit dans ce monde. Il est présenté comme le feu qui réchauffe aussi nos cœurs, qui enflamme l'amour fraternel. On peut éteindre le Saint-Esprit. On peut étouffer le Saint-Esprit dans son action. Le Seigneur Jésus, le prophète Ésaïe dit au chapitre 59, au verset 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà le problème. Tout le problème réside de ce que le péché coupe notre relation avec Dieu. Le péché empêche le Seigneur d'agir. Que devait faire Dieu dans une telle situation? Que devait-il faire? Dieu est saint. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il doit juger. Un commentateur a dit, soit Ananias, soit le Saint-Esprit devait quitter l'Église. Soit Ananias, soit le Saint-Esprit. Soit Ananias vivait, et le Saint-Esprit était attristé et n'opérait plus au milieu d'eux. Soit le Saint-Esprit vivait, et Ananias et le péché n'opéraient plus. Dieu a choisi la deuxième solution, afin que les âmes se convertissent, et afin que les chrétiens de toute génération connaissent l'enjeu, le péché ou l'action miraculeuse du Saint-Esprit. C'est cela qui est en jeu. Le péché ou l'action miraculeuse du Saint-Esprit. Alors la troisième leçon que j'aimerais qu'on relève, on a vu qu'il nous faut faire attention à une idée fausse, nous souvenir d'une réalité terrible, l'action du diable qui cherche à corrompre l'Église. Et enfin, devrions désirer une croissance miraculeuse de l'Église. Parce que Dieu a jugé le péché, alors l'action du Saint-Esprit s'est poursuivie. Elle s'est poursuivie d'une manière extraordinaire. Il est dit au verset 5, « Une grande crainte saisit tous les auditeurs. » Verset 6, « Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. » Le groupe de jeunes dans l'Église primitive s'occupait aussi des obsèques, semble-t-il. Vous imaginez la situation? Devant leurs yeux, un homme vient d'être frappé simplement à cause d'une hypocrisie. Ils doivent le prendre, l'emporter, l'enterrer. Ils reviennent, c'est sa femme maintenant qui est frappée. Imaginez quelle impression a fait cet épisode sur ces jeunes qui se sont levés et qui ont enterré Ananias et Saphira. On peut vraiment penser qu'ils se sont appliqués à ne jamais jouer la comédie avec Dieu toute leur vie durant. Au verset 11, il est dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » L'Église elle-même. Mais tous ceux qui ont appris ces choses, ce pourrait être nous, si ce récit fait la même impression sur nous que sur l'Église primitive. Nous pouvons voir combien Dieu est redoutable, combien il est saint. Nous pouvons voir le péché comme Dieu le voit, comme ce qui a coûté la vie au Seigneur Jésus-Christ. Le jugement de Ananias et Saphira est un châtiment exemplaire. Il nous est donné à nous pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas la même attitude, mais que nous recherchions la sainteté d'une vie vécue sous le regard du Seigneur. Quelle leçon tirer pour nos vies? Reconnaissons que le péché mérite la mort. Les choses n'ont pas changé. Reconnaissons que notre Dieu est saint et que l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplit au milieu d'un peuple saint. C'est extraordinaire ce qui se passe. Au verset 12, il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » On appelle ça les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, bien entendu. Ça montre bien que le Saint-Esprit était à l'œuvre d'une manière extraordinaire. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Regardez l'unité que produit le Saint-Esprit dans les cœurs. Et regardez encore verset 13. « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. » Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. C'est le peuple, il est saisi par cette crainte. Ils disent « Oh là là, c'est incroyable ce que Dieu fait au milieu d'eux. Mais si je viens, et si je fais partie de cette église, alors je pourrais connaître le même châtiment qu'Ananias et Saphira. » Et les gens observaient, et les gens louaient Dieu, et les gens réfléchissaient à ce qu'ils voulaient vivre. Ils réfléchissaient à la vie qu'ils allaient entreprendre, de mener sous le regard du Seigneur. Et quand ils se convertissaient, ils se convertissaient véritablement, tout entier. Le verset 14 dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Et dans tous les environs de Jérusalem, on venait et on accourait pour voir ces choses-là. Il y a Dieu qui est à l'œuvre dans cette église à Jérusalem. Et rien n'empêchait le monde de venir et d'entendre le message de l'Évangile. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que nous souhaitons cela? Est-ce que nous souhaitons cette croissance miraculeuse? Cette action extraordinaire du Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, auprès de notre entourage? Alors, le péché doit être jugé. Quelqu'un doit mourir. La bonne nouvelle pour nous, c'est que on peut se tourner vers le Seigneur. Le châtiment est déjà tombé. Quelqu'un est mort pour mon péché. Quelqu'un est mort pour mon péché, pour votre péché. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu la colère de Dieu. Ce feu du ciel qui est tombé sur Ananias et Saphira, c'est celui qui est tombé sur Jésus-Christ et qui a consommé mon péché. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer au péché et à toutes ses convoitises. Nous avons besoin de tourner nos regards vers Jésus-Christ, de voir Christ crucifié, de voir Christ agonisant sur la croix pour nos fautes, reconnaissant que voilà ce que méritaient nos fautes, nos crimes. Souvenons-nous de cette histoire d'Ananias et Saphira, pour que cette crainte, cette sainte crainte de Dieu, ce respect profond, elle soit sur nos cœurs, de sorte que nous vivions une vie séparée du péché. Et si jamais un péché demeure dans nos cœurs, dans nos vies, si dans un recoin nous gardons quelque chose, une corruption quelconque, venons devant Dieu. Disons, Seigneur, je sais ce que mérite mon péché. Je sais que tu ne peux pas agir avec une telle souillure au milieu de mon église. Et c'est pourquoi je te prie, Seigneur, d'effacer mes transgressions. Revenez à lui de tout votre cœur. Dites-lui cela. Demandez-lui pardon pour chaque offense faite. Et laissez Dieu agir avec puissance dans votre vie et au milieu de l'Église. On voit depuis déjà quelque temps le Seigneur agir au milieu de nous. On voit des âmes se tourner vers lui. On voit des gens s'engager dans les eaux du baptême, désirant se joindre à l'Église, désirant le servir, se lever pour glorifier son nom, pour enseigner son évangile, pour faire connaître des jeunes qui se lèvent pour la mission. C'est tellement merveilleux. Il n'y a rien qui doit plus nous humilier de voir un Dieu qui est agissant malgré nos fautes. Un Dieu qui est tellement gracieux et qu'il efface nos transgressions à cause de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix. On devrait penser avant de pécher, avant de se laisser aller au péché, à l'hypocrisie ou à quoi que ce soit, on devrait penser, Seigneur, je ne veux pas mettre un obstacle à ton action au milieu de nous. Pardonne mes offenses. Je veux que le Saint-Esprit puisse continuer d'agir au milieu de nous avec puissance, qu'il nous donne grâce pour pouvoir fléchir nos cœurs à sa volonté, résister au diable, nous soumettre à Dieu de tout notre cœur.